Heureux porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la relève, présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québecor.
17 au 18 avril, venez découvrir les grands noms de demain dans 6 salles de Montréal.
Originaux et audacieux, ces spectacles reflètent les tendances de l'heure dans toutes les disciplines des arts de la scène.
Mur affirmé, bien ancré depuis 20 ans, le festival demeure à l'image de ses artistes. Jeunes, passionnés, fougueux, amoureux des arts et animés d'une énergie revitalisante.
Billets à vuesurlarelève.com.
Choc, la radio web de l'UQAM lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes, c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler. Courez la chance de gagner une somme de 1 000 $ en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer? Visitez choc.ca. C-H-O-Q.ca. 60 secondes radio pour la liberté. Date limite, le 12 avril 2015.
Le Festival international d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leurs soldats du côté Est de l'Amérique. Plus d'informations, electrafestival.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bon mardi soir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. On se sent lourd aujourd'hui.
Oui. On est enceinte, moi puis Simon.
On est enceinte de beaucoup de bouffe, beaucoup d'alcool. Hein? On a pris l'habitude. J'avoue que ça, c'est le côté que je trouve vraiment plaisant d'avoir déplacé les oubliettes le mardi soir.
Oui.
Parce que là, on a le temps d'aller, moi puis Olivier, après la job, aller manger ensemble, aller prendre un verre, préparer le show, jaser, prendre des nouvelles d'un et l'autre. C'est bien cool, sauf qu'au final, on se rend compte qu'on est pas mal vieux, parce qu'à chaque fois qu'on finit de bouffer, on a le goût d'aller faire une sieste, c'est pas un show de radio.
Écoute, c'est intense, hein?
C'est intense, c'est ce qu'on a.
Un petit repas, là, tu sais, tout bien léger, mais on sort de là.
C'est jamais léger. Mais là, léger, t'as bouffé un burger, j'ai bouffé une grosse poutine avec du porc effiloché, c'est pas léger par
tout. C'était bon.
Donc, pour ma tante Ginette qui vient de se joindre à nous, je me présente, Simon Predge, ton animateur juste à toi, et je suis en compagnie du... je sais pas, on va y aller avec quelque chose d'original, disons...
Le sulfurant.
OK. Faudrait que je commence à y penser d'avance au lieu de juste improviser live. On va me faire une liste d'adjectifs. Donc aujourd'hui, ça va être le sulfureux.
Ouh.
Olivier Bigonès. Allô, sulfure.
Bonjour.
Comment tu vas, Ali?
Je vais super bien. Comment tu vas, toi?
Oh, ça va, mais on le savait déjà, hein, parce qu'on vient juste de dire qu'on vient d'aller dîner ensemble et boire un verre. Mais c'est comme ça qu'ils font, hein, les professionnels. Ils se demandent comment ça va, donner l'impression qu'ils ne se sont pas vus en backstage juste avant.
C'est ça.
Donc, on va faire comme tout le monde et on va tenter d'être professionnel. T'es-tu prête pour un autre show des Oubliettes?
Oui, je suis prêt, puis je voulais juste, comme je te disais tout à l'heure, juste dire un petit mot.
Hey, shout-out, let's go, man.
Un petit shout-out, juste pour montrer que les films qu'on parle sont écoutés, qu'on fait vraiment découvrir des films à du monde, puis je suis bien content. Aujourd'hui, il y a Danny Gauthier à mon travail, qui est venu me dire qu'il écoutait In a Glass Cage, puis que ça l'a secoué quand même.
Man, ça m'a secoué moi aussi, puis j'en ai vu toutes les affaires, là.
Puis tant mieux, tu sais, tant mieux, je trouve ça le fun qu'on fasse découvrir des films comme ça, puis qu'on se le faisait, tu sais. Fait que notre travail, le fun qu'on fait entre nous autres, ben, au bout du compte, ça plaît à du monde. T'sais, on influence du monde. C'est le fun.
Ben, je suis content de t'avoir, moi, parce que moi, personne ne me le dit. Fait que... Toi, apparemment, les gens te parlent. Fait oui. que... On a des feedbacks. Moi, je te parle tout seul dans mon monde. Fait que, ben, salut, Danny, puis salut à toute l'équipe du CA. Parce qu'il y en a une couple là-bas qui nous écoute. Merci de nous suivre. Vous êtes bien fins. Je sais bien que Lee est tellement attachant. Comment faire autrement?
Mais comment ne pas?
Oh, hein? On a tout le temps le goût de faire un gros câlin, et celle-là. Oui. Sur ça, moi, j'ai pas de shout-out. Je n'ai pas parlé à personne cette semaine. Mais non, on se lance-tu? On est-tu prête? Hein? On se lance?
Go.
Moi, j'ai hâte de parler d'effets spéciaux, pas mal plus que de scénarios. On va se mettre une petite musique d'ambiance. Le jour de la fin des temps. Quel film! Mais pour l'histoire, on repassera. C'est donc, oui, c'est un film que j'adore, mais parce que je suis fan de stop motion, de laser, de monstres géants, d'effets spéciaux d'un temps révolu qui ont façonné notre cinéma de genre de demain et avant que ça devienne de la boîte en CGI cheap. Un film qui a beaucoup de titres différents depuis sa sortie en 1980. Le titre changeait d'une distribution à l'autre, ne sachant pas comment appeler cet extraterrestre cinématographique. Et la raison est simple. On comprend rien à l'histoire. Mais c'est surtout parce qu'il n'y en a pas tellement. C'est un film qui est connu sous le titre The Day Time Ended. Le jour de la fin des temps. Vortex. Hurt. Final Fury. Time Warp. Black Thunder, puis j'avoue que Black Thunder, là, ça n'a pas rapport avec rien du tout. Et finalement, en distribution en France et aussi au Québec, comme La Nuit des Extraterrestres. C'est vrai qu'il y a des extraterrestres, mais c'est vraiment pas important. Mais c'est ça le film. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Tu sais pas trop dans quoi t'embarquer. Tu sais pas trop comment le regarder. On va en parler. C'est donc un film produit... pas réalisé, produit par Charles Band, fondateur de Full Moon Pictures, qui nous a pondu, entre autres, Puppet Masters, oui. Subspecies, Trancers, Demonic Toys, Arcade, qu'on va parler ici éventuellement, c'est sûr, je l'adore.
Shrunken Heads.
Shrunken Heads, avec les têtes qui volent. Oui. Bad Channels, et j'en passe. Hein. Connu pour des films d'effets spéciaux, de costumes en rubber, de débilités fascinantes, généralement en direct-to-video, et toujours avec un minimum de budget, et trop souvent tourné en vidéo et non en pellicule, il y a eu des bons et des moins bons coups chez Full Moon. C'est un film qui est réalisé par John Bud Cardos. Il a été acteur, stuntman, assistant réalisateur, production manager, producteur et réalisateur de 11 films, dont Kingdom of Spiders en 77, The Dark en 79, qui est quand même très cool, Act of Piracy en 88, Skeleton Coast avec Oliver Reed, le grand Oliver Reed en 88, et Gore 2. tu pas connaître ça, toi?
Gore.
G-O-R, Gore. Les bannis de Gore, puis non? Ok, c'est parce que c'est plus fantastique, c'est moins ton genre un peu. Je vais peut-être en parler ici un moment donné parce que c'est... En tout cas, c'est particulier pour ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. C'est une espèce de weirdo. Donc oui, il a réalisé beaucoup en 88, une grosse année pour John Bud Cardos, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Donc je continue. Les acteurs principaux du film, donc on a Jim Davis, vétéran du cinéma western et vedette du show télé Dallas. C'est pas son plus grand rôle ici, mais en fait, c'est pas le plus grand rôle de personne. Je vais vous dire pourquoi éventuellement. C'est probablement parce qu'il est aussi confus que nous par rapport au scénario. Mais toutefois, c'est son dernier rôle avant de décéder suite à des complications durant une chirurgie en avril 1981. On a aussi Dorothy Malone, une autre grande actrice gagnante d'un Academy Awards en 1956. Mais c'est pas dans ce rôle-ci qu'on pourra constater son talent. Elle semble faire de son mieux tout en trouvant le temps un peu long, se demandant ce qu'elle fait là. 112 rôles à son actif, dont Basic Instinct,
okay.
C'est qui est son dernier rôle en 1992. Aussi, on l'a vu dans des films d'horreur, plus pour vous autres, Rest in Peace en 87 et The Being en 83.
Mm-hmm.
On a aussi Marcy Lafferty, tellement jolie, mon Dieu qu'elle est jolie. Un beau petit style hippie, là, tu sais, en tout cas, je sais pas comment dire. Un style...
Ça en vient violent.
Voyons, c'est quoi le film? Dazed and Confused.
OK.
Tu sais, une belle petite brune aux yeux bleus, mais avec
genre
un look...
Genre Jovovich, là.
Ouais, okay. C'est ça, un petit look Dazed and Confused. Okay. C'est pour ça que je dis hippie, mais pas hippie dans le film. Là. Je dis juste, en tout cas, whatever, je la trouve cute, et puis on s'en fout.
Les plate, là, c'est ça?
Ouais.
OK.
C'est ça. Tu commences à me connaître, hein?
Ah ouais.
Faudrait qu'on arrête d'aller super ensemble, puis que je te raconte mes histoires de filles. Mes déprimes, plutôt, monsieur.
Ouais.
Anyway, on en reparlera une autre fois. Prochaine fois que t'es pas là, je pense que je ferai un show sur mes histoires d'amour qui termine toujours très mal ou plate. Eh boy. Bon, en tout cas, je suis un peu tombé en bas de ma chaise, par contre, quand j'ai vu que Marcy Lafferty avait été nominée Best Supporting Actress au Saturn Awards. Une nomination pour ce film-là. Wow, c'est assez surprenant, en fait. Je ne devais pas avoir grand-chose au Saturn Awards cette année-là. Ça, c'est pas... Mais faut l'admettre, elle est excellente et très charismatique. On l'a vu dans Airplane 2 en 82, Kingdom of Spiders en 77, Star Trek le film en 79, mais surtout des séries télé, des téléfilms. On a aussi Christopher Mitchum, c'est le fils de Robert Mitchum en fait. Il a joué dans beaucoup de westerns, des séries B. On l'a vu dans Summertime Killer en 72, Stingray.
Ok.
Hein? On a un petit contact ici. On dira plus tard pourquoi. Mais bon, on l'a vu dans Stingray en 78, The Executioner 2 en 84, Aftershock en 89, le classic western Tombstone en 93, Body Count en 94, de Uli Lomel, si je me trompe pas. Anyway, t'as pas vu ça, Body Count?
Attends, tu me parles-tu de 87, le film italien, là?
Moi, j'ai 94, c'est pas le même film. C'est 87, le italien?
Tu sais, t'as Camping del Terror. Comme si
je pense que j'ai mélangé les deux.
Okay.
Lui, il a joué dans celui de 94. Fait okay. Que ça veut dire qu'on ne sait pas c'est lequel, là, celui de 94.
Non.
OK.
C'est l'autre.
Moi, j'ai vu Body Count. J'ai pas poussé
italien,
ma recherche.
Là.
J'étais sûr que c'était ça.
Dans
là.
Forêt, les petits...
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça. Ça, c'est 87. C'est,
une chose que je t'ai toi, parce que j'aurais l'air fou souvent.
C'est Lenzi ou Deodato. Il me faut tout le temps.
C'est pas Uli Lomel qui a fait ça?
Non. T'as David S. qui joue là-dedans, puis Mimsy Farmer.
Ah, OK. Je l'ai vu il y a genre 10 ans.
Bon
faudrait que je me le retape. Ouais,
on en parlera
cool.
Un jour.
Il a joué aussi dans... je le nomme juste parce que j'ai VHS que je trouve vraiment étrange puis que j'ai hâte de regarder. Un direct-to-video tourné en vidéo. Biohazard, The Alien Force en 95. T'as-tu vu ça?
Non.
J'ai VHS. Je vais me taper ça un moment donné. Ça a l'air weird puis cheap. je fais ça vite. On a Scott Colden. C'est surtout un gars de son, en fait, ayant travaillé comme soundman sur 233 films, quand même. Mais il y a eu 8 rôles, étrangement, dans des téléfilms, quelques apparitions dans les séries télé. Et on a Natasha Ryan. C'est la petite fille dans le film. Très bonne, adorable. Elle a aussi joué la fillette dans, attention, Amityville Horror.
Ah oui?
C'est pas rien, là. C'est
laquelle?
Ben, la petite, la plus jeune, là.
OK, celle la petite, petite.
Ouais, c'est
genre.
Ça.
OK.
Elle joue aussi dans Entity, The Entity en 82, et elle aussi dans Kingdom of Spiders. C'est okay. À croire qu'ils ont tous joué dans le même film. Donc, le synopsis du film de ce soir. C'est difficile à faire comme synopsis parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est très confus. On va quand même tenter notre chance. Trois comètes géantes explosent dans notre galaxie et libèrent une énergie cosmique qui s'abat autour de la villa des Williams, au beau milieu du désert de la Californie. La petite Jenny va trouver une pyramide au pouvoir mystérieux. Des ovnis vont survoler la demeure et des monstres effrayants causeront le chaos. Ils traverseront le vortex de l'espace-temps. C'est un résumé du synopsis, donc version plus raccourcie. Qui se trouve derrière la VHS, parce que même derrière la cassette, ils font juste énumérer les affaires qui se passent dans le film. Tu te rends vite compte qu'il n'y a pas d'histoire.
Okay.
Donc, en gros, sans explication claire, le concept, c'est qu'un vortex s'est installé sur la villa des Williams. Le pourquoi, le comment, c'est un peu space et flou. Mais c'est pas vraiment important. Suite à ça, c'est surtout un film qui enchaîne divers événements dans le but de se faire plaisir avec toute une gamme d'effets spéciaux, tous plus trippants les uns que les autres. Le film débute sur une narration nous expliquant que des choses de l'espace s'en viennent. C'est vraiment ça, là. T'sais, en tout cas. Le tout sur des stock shots de l'espace avec Mars et Saturne, deux planètes qui ne joueront aucun rôle dans notre histoire. Donc, la famille Williams s'en va se reposer à leur villa de campagne dans le désert de la Californie. Une maison fonctionnant à l'énergie solaire, supposément, mais sûrement juste une piole en plywood construite par la production au milieu de nulle part. Croyez-moi. Une espèce d'explosion de météorites va avoir lieu au-dessus de la maison avec plein de lumière en tourbillon, là, en After Effects style.
Ouais.
Ensuite, la famille arrive sur place, se doutant de rien. Le père les amène derrière la maison pour leur faire un cadeau, un poney puis un cheval dans une étable.
C'est ça, il dit de même, hein?
Ouais, mais c'est parce que ça amène rien à l'histoire, c'est ça qui arrive, en tout cas. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la maison. Parce que comme ils sont dans le désert, c'est la seule place où ils peuvent vivre des aventures sans être vus par les autres personnages. Fait qu'ils se ramassent tout le temps en arrière de la maison pour être tout seul. C'est vraiment weird. En tout cas, ils vont entrer dans la maison et découvrir que le salon a été saccagé. Le réflexe est de mettre ça sur le dos des bikers. Ouais. Mm-hmm. Leur explication est que ils ont vu des randonneurs sur la route. Oui. On sent la connexion là, entre les randonneurs et les bikers.
Les bikers, c'est la même chose.
Pareil. C'est vraiment dans l'habitude des moteurs aussi de rentrer par effraction chez les gens et de crochir des cordes en lançant des coussins sur le sol. Oui, oui, tout à fait. Puis pour sauver dans le budget, ils ont juste saccagé le salon. T'sais, ils ont okay. juste comme juste le salon. Les autres pièces, pas grave. Sauf que, check ça. Là, faut comprendre que. J'en reviens, il y a tellement de couches dans ce. Là, il faut comprendre que leur mec budget ne leur permettait pas de construire plus que deux pièces à la maison. Le salon et une chambre.
OK.
Alors, pour montrer qu'il y a d'autres pièces, ils vont ouvrir plein de portes, glisser leur tête à l'intérieur et ressortir en disant
oh, « non.
non, ils ont rien saccagé
oh,
ici. »
Oh non, OK. Oh non.
C'est malade. Oh. Anyway. Derrière cette même maison, Jenny va tomber sur une espèce de grosse pyramide verte fluo phosphorescente là, qui peut changer de grosseur comme bon lui semble, un peu à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, là, duquel sort la première bibitte du film. Mm-hmm. C'est une espèce de mini extraterrestre tout aussi vert fluo, une créature en stop motion qui va même nous faire un numéro de danse à un moment donné dans la chambre de Jenny. Ils vont devenir amis. Mais à vous de le découvrir, j'en dis pas plus là-dessus. Mais là, des extraterrestres vont aussi commencer à survoler la maison. Des vaisseaux spatiaux miniatures vont même les attaquer avec des lasers destructeurs pis tout. C'est malade. Mais surtout à coup de lumière verte phosphorescente. Et c'est pas tout. Le temps est tout déréglé et la villa est transportée à une époque préhistorique. Du moins, c'est ce qu'on comprend dans le scénario bâclé. Des monstres géants vont débarquer, eux aussi en stop motion, et ils sont fabuleux, faut l'admettre. Vraiment parmi les monstres géants en caoutchouc que j'adore. Je les trouve vraiment trop nice. Ils vont se battre entre eux dans un court combat qu'on aurait voulu plus long. Mais ça, c'est moi. Là. Je m'attends juste jamais du stop motion. Là. Faut pas trop en dire parce qu'en réalité, j'aurais envie de raconter toutes les scènes au complet du film dans le détail tellement elles peuvent être attrayantes, distrayantes, mais ridicules en même temps. Tu sais, comme l'ouverture des portes pour dire qu'il y a des pièces, mais on va jamais dedans. Là. C'est de même du début à la fin. Vous allez constater que la famille Williams est probablement une famille autiste ou quelque chose. Ils ont quelque chose, parce qu'à chaque décision ou action de leur part, ça fait aucun sens. Puis c'est même parfois complètement débile. Mais je pense que c'est ce qui fait la beauté weird de ce film indépendant. Sa valeur campy. Si c'est votre genre de science-fiction 80s, plein de bébites, d'effets spéciaux révolus, vous allez avoir le sourire aux lèvres pour toute la durée du métrage. Attends, juste être sûr que je ne l'ai pas écrit plus tard. Je vais y revenir si j'ai oublié de l'inscrire. Je vais continuer dans mes paperasses. Là. Une dernière chose, par contre, pour ajouter une cerise sur le Sunday, c'est pas vrai. Je veux remercier avant tout Mario Bélanger. Ça, c'est l'acteur, le comédien québécois qu'on a vu, entre autres choses, dans l'émission de... à Musique Plus avec les rockers là,
les pop et rock.
Ben là, pop et rock.
Ben c'est quoi là?
Non, je veux parler avec Mike Ward là.
Ah, ok.
Il jouait un rocker, je suis pas assez spécialiste. On l'a vu aussi, c'était le porte-parole des pubs de char, le gros bon sang. Les cheveux frisés. Anyway, c'est pas grave, je te montrerai une photo. C'est bon. Mario Bélanger, c'est lui qui m'a fait découvrir le film, en fait. Parce que je connais ce petit trésor-là grâce à lui, parce qu'il avait prêté une VHS à douteux.org dans le temps que je faisais partie de la gang, il y a une couple d'années. Ça, puis une pile de cassettes de chasse et pêche. Là.
Pourquoi?
Ben, parce que c'est ça qu'on faisait, ramasser les cassettes. Puis une chance qu'il nous a prêté ça, il y a tellement de bijoux dans sa pile. Et d'autres films achetés à terre là, que je vous garde pour une prochaine chronique. Hein, je vais me garder des surprises. En fait, je vais probablement inviter Mario Bélanger en entrevue rendu là, puis j'ai même bien hâte de vous en parler, parce qu'il y a un film qui nous a amené, dans lequel il joue. C'est un film que personne n'a jamais vu, ou en tout cas, à part peut-être ses amis, sa famille. Man, épique, épique série Z québécois. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, mais je garde la surprise. Mais c'est de l'insolite, très rare. On s'en reparle. Donc, une dernière chose pour ajouter la cerise sur le Sunday, j'aimerais parler un peu de la fin du film. Là, je précise, on peut pas le considérer comme des spoilers parce qu'il n'y a pas d'histoire. Je vous volerai aucun punch. C'est une série de séquences qui s'emboîtent pas vraiment, alors ça n'a aucune importance. La scène aurait pu être ailleurs dans le film que ça changerait rien. C'est juste que je la trouve... Je veux rajouter ça au synopsis, en fait. Après une attaque de monstres qui va disparaître grâce à des lumières fluo sorties de nulle part, c'est vraiment ça, là. Les monstres sont là, puis là, d'une seconde à l'autre, il y a plein de lumières qui tourbillonnent, puis là, les monstres disparaissent. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que ça, c'est comme l'ascenseur des dimensions, finalement.
OK.
Fait que quand les lumières apparaissent, puis twist, là, ben là, c'est comme s'ils voyageaient d'une dimension à l'autre.
Le vortex.
Ouais, mais c'est pas clair. OK. En tout cas, là, le dude, il va sortir dehors, parce que là, les monstres sont plus là, il n'y a plus de danger. En tout cas, il croit. Puis soudainement, non seulement c'est rendu le jour, parce qu'on était la nuit juste il y a une seconde avant, non seulement c'est rendu le jour, mais là, le terrain est rempli de vaisseaux spatiaux, d'avions, de véhicules extraterrestres et même un camion de location U-Haul. Bon, on va le préciser, là, le camion U-Haul, il a probablement été oublié là par un membre de l'équipe avant de tourner la shot. Mais c'est quand même, ça, on s'en rend pas compte, puis probablement que les autres non plus ne s'en sont pas rendus compte, parce que c'est ça, le désert, soudainement, là, il est à perte de vue, le rempli de vaisseaux de toutes sortes, certains qu'on connaît, certains qu'on connaît pas. Puis là, anyway, là, s'ensuit encore une fois un paquet de lumière par-dessus l'image, là, ça enchaîne encore une autre affaire, qui laisse présager qu'un passage entre les dimensions est en train de s'ouvrir, en tout cas, hein, je pense, je suis pas trop sûr. Là, Grant court vers la maison, mais la petite Jenny va se faire sucer par le vortex, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des loops de ces fameuses lumières par-dessus Jenny qui court au ralenti en criant avec du gros reverb, là. En tout cas, le Grant va à ce moment-là tout donner en ralenti pour attraper la petite Jenny. Et pendant cette scène, remarquez bien quelque chose. La façade de la maison qui est juste derrière, OK? On peut clairement voir que, pour les besoins de la scène, ils ont refait la façade en peinture sur une simple planche. Regardez, en haut de la porte d'entrée, il y a un trou qu'ils n'ont pas remarqué ou qu'ils pensaient qu'on verrait pas, on peut voir le ciel à travers du mur de la maison. Fait que, en tout cas, mais le film est truffé d'affaires de même. Là. C'est ben, have fun. Je m'arrête ici, je n'en dis pas plus. À vous de découvrir cet étrange petit film. Il est super le fun. Vous ne serez pas déçus, même si c'est un petit nanar de série B. Il est vraiment drôle et divertissant et on n'a aucun temps mort. Si les effets spéciaux rétro, les monstres ridicules, géants et le scénario insensé qui rendent ce film vraiment magique. Mais il y a des choses, il y a une chose qui est officielle, c'est que le but premier est de s'amuser avec des effets spéciaux. Parce que sur IMDb, dans les commentaires des utilisateurs, il y a un dude qui dit qu'il a travaillé sur le film et confirme que c'était juste un médium pour tester des effets avant de se lancer dans des projets plus sérieux et plus gros. Sachant ça, ça explique tout. Le film est un feeling de « bon, on a essayé ça, passons à notre scène, essayons autre chose juste pour voir ». Puis là, ils font shaker les lumières, puis là, hop, un autre effet spécial juste pour l'essayer.
OK.
Fait que, tu sais, oui, OK, c'est un film d'expérimentation comme ça. Fait que c'est pour ça que l'histoire, elle veut rien dire. C'est pourquoi aussi, à aucun moment, on nous explique pourquoi les choses arrivent, si les aliens sont trop gentils ou s'ils sont juste méchants, ou c'était quoi le gros monstre dans l'entrée qui cognait à la porte. Tant de questions, si peu de réponses, mais quel divertissement. Je vous le propose fortement pour tout fan d'effets spéciaux rétro, de sci-fi weird ou de bébites fantastiques en stop motion, vous serez pas déçus. Mais pour être honnête, je peux pas vous le confirmer à 100%. C'est un bien étrange petit film, mais il a fonctionné pour moi. J'ai eu bien du fun. Assez pour que je sois à la recherche d'une affiche originale pour ma collection personnelle. Mais j'en ai pas encore trouvé, là. C'est assez rare. On va peut-être mettre la main dessus. Je l'ai partagé sur le blog, transféré même directement de ma VHS en version française. Visitez le blog au www.lesoubliettes.ca. Sur ce, on va aller prendre une petite pause musicale avec une chanson de Carlo Rusticelli, la chanson Unseizing de 1969, tirée du film Il Regazzo Cesoride. Et on vous revient tout de suite après avec la chronique. Oh, du tellement sexy, Olivier. Hey, si vous le verriez, je pense qu'on va rajouter une caméra en studio. Ooh. Là. On vous revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca.
Bon, ben tout le monde, la toune que vous entendez pas.
Alors là, ça donne de la merde. C'était pas super sur mon ordi.
Ouais, ben finalement, c'est le bruit de l'auto.
Ben, c'est le bruit de l'auto.
Dans le film que je vais vous parler.
Oh.
Donc aujourd'hui, on parle de Mad Foxes, a.k.a. Los Violadores, de 1981. Donc c'est un film qui est écrit et réalisé par Paul Gros. Qui entre autres a réalisé, bon, pas grand chose, mais comme Giffen. Colin. Tout le temps, moi qui pogne les titres, hein.
Bon, mais attends, là, t'as voulu aller dans le cinéma international, arrange-toi, là.
C'est
bien, c'est moi, j'étais en train d'apprendre l'italien à force de dénommer, là.
Fait que Giffen Jean Frohn en 1980, Lost in the Barrens en 90, co-écrit par Hans R. Waltard, rien d'intéressant. Co-écrit aussi par Jamie Jesus Balcon. Cazare. Donc,
il y a Jesus dedans.
Oui. Donc, scénariste et réalisateur de rip-off western italien, beaucoup, 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 dont Fistful of Diamonds. Et il a écrit, ça, tu vas être content, Le miel du diable.
Ah, oh, c'est lui qui a écrit ça.
Fulci.
Je viens juste de m'acheter une belle affiche. Là.
Oui, avec le saxophone. avec ton mouvement de bassin. Et Melvin Quinones, qui a entre autres écrit quelques films de fesses. Donc, cast rapidement.
Comment t'écris un film de fesses?
Ben, ça a l'air, ça
c'est Ah oui, encore.
C'est ça. Là, vas-y, bon, la fenêtre, cadrage. OK, là, tu dis ça. OK, profond. Ça doit être ça. Donc, le cast, rapidement, je vous nomme quatre personnes. Donc, on a José Gras, de son vrai nom, José Gras. Je voulais juste le dire. Là-même. Donc, dans le rôle de Al Walters, entre autres, qui a joué dans un film que j'aime beaucoup, Hell of the Living Dead, en 80, de Mattei.
Ben oui.
Conquest, en 83. On a Laura Premica dans le rôle de Sylvia Gogo, qui n'a rien fait d'autre chose.
Ah, pour vrai?
Non.
J'aime ça que ça arrive.
Je trouvais ça cool, Sylvia Gogo. C'est le fun.
Je suis sûr que c'est son vrai nom.
Sylvia Gogo. on a Andrea Albani dans le rôle de Babsy. C'est le fait intéressant, décédé à 33 ans, surtout fait des petites comédies érotiques. C'est tout. Rien
j'aime ça
de...
comment tu le dis.
Mais rien de titre. Valable. Et personne là-dedans, sérieux, là. Eric Fall dans le rôle de Stiletto, donc qui est un acteur de porno qui a, entre autres, joué dans Wanda The Wicked Warden en 77, Barb Wire Dolls en 78. Donc, si ça vous intéresse, allez checker sa filmographie. Film pornographique allemand, des affaires même. OK. Donc, le synopsis du film. Donc, de quoi je vous parle aujourd'hui en tant que tel? C'est un film d'exploitation. OK? Mais un gros film d'exploitation. Dans le sens, bi-exploitation, car-exploitation, sex-exploitation, nazi-exploitation. OK? Il y a tout là-dedans. Là. Donc,
Mais là, mettons que moi, il faut... J'avoue, là, je l'ai pas vu encore.
Oui.
Moi, il faut que je le classe sur le blog, là.
Oui.
Moi, j'ai écrit « by exploitation oh. ». Ça marche-tu? Faut-il que je mette les autres, selon toi?
Mais ça, exploitation.
Générale?
Générale exploitation, okay. Parce que tu peux pas...
Tu peux pas, hein?
Il y a tout là-dedans.
Okay. All right. Show me, man. Show me.
Donc, synopsis du film. Donc, Al Walter, un playboy flobant son cash sur des petites pitounes et des beaux chars, se rend dans un bar pour fêter le 18e anniversaire d'une de ses nombreuses petites amies. Il patiente un feu rouge avec la petite nymphette dans sa sublime voiture. Un méchant, je connais rien en char, mais un méchant beau char.
Ben, c'est pas un Stingray, justement?
Ça ressemble à un Transformers.
Ah, ben oui, c'est vrai, on n'avait pas fait le call tantôt, mais tu vois, je parlais de Stingray okay. Tantôt.
Bon, ben,
ça, c'est Stingray 2.
Tu viens de m'apprendre de quoi? Parce que c'est un méchant beau char. Vraiment,
ouais,
vraiment beau.
C'est beau, c'est
le
très
budget hot. Est passé là. passant un feu rouge avec la petite effette, quand un gang de bikers décide de l'empêter, lui disant qu'il fait son frais dans son auto, blablabla, « Leave me alone », dit-il, c'est rien de viril, là. Jusqu'à un d'entre eux lui crachera au visage. Fait que là, lui, « You'll pay for that ». Là, Al est en beau maudit et une fois la lumière verte, va accélérer son bolide pour... entre les bikers, tu sais, se promenant entre les bikers, ce qui causera l'un d'entre eux d'avoir un accident et de mourir. Donc, maintenant, au bar, tu sais, le gars, il mange, pas grave, parti. Au bar, va saouler la petite avec du champagne avec une seule intention, la dépuceler. Donc, une hey fois...
Boy.
Ouais, tu sais, c'était vite en affaire. Donc, une fois tous les deux bien chauds, ils décident de quitter le bar où les bikers les attendent dans une ruelle. Donc, les bikers sont des soi-disant nazis hyper caricaturés. Ouais, encore des nazis.
Hey, on va-tu les lâcher, ouais. Nazis?
Là,
hein?
Là, ça fait. J'arrête.
Non, mais on va se le dire. Moi, je suis un livre ouvert. Je vais le dire, ouais. Là. Cette semaine, tu m'as dit quel film tu choisissais, puis je me suis senti obligé de dire, hey, peut-être qu'on devrait lâcher ouais. Nazis. Un peu, ouais. Sens, ça fait plusieurs semaines qu'à chaque semaine, il y a un maudit
voir,
nazi.
Ce n'est que prétexte de les
ben
appeler
oui,
nazis.
Ben oui, c'est tout le temps des prétextes.
C'est pas un film de nazis, vraiment.
Ça l'est jamais. C'est juste, ils ont des
non,
kits.
C'est en plein ça. Donc, ils foutront une raclée voyons, Al, tandis que, je me souviens plus de son nom, honnêtement, de la fille, c'est pas important. Donc, il est en train de se faire violer par le grand tata de 6 pieds 5 de la gang, Stiletto, de son nom, sous les yeux de Al, impuissant devant la situation. Donc, mais non, t'sais, finalement, c'est pas lui qui a eu la chance de dépuceler la petite pierre. Désolé.
Ben,
donc,
ça arrive.
T'as dépensé plein de cash en alcool, mais c'est pas toi qui l'as eu. Donc, donc, première chose que Al fait une fois sorti de l'hôpital, OK, après que l'autre s'est fait violer, c'est rentrer chez lui, se servir à boire, s'allumer une cigarette bien tranquillement et appeler son ami professeur d'école de karaté, je suppose que c'est du karaté ou du kung-fu, whatever.
Ah oh, oui, lui!
OK, donc, pour lui raconter tout ce qui s'est passé, il veut se venger. Donc, le soir venu, le prof de karaté va envoyer ses petits ninjas à l'attaque, attaquer les motards à leur tour pendant une pseudo-cérémonie d'enterrement dans un colisée abandonné. Je sais pas trop c'est quoi, pour leur confrère de motocross qui est mort durant l'accident du début du film. Dans l'accident. Donc, ils vont foutre une méchante volée et aussitôt dit s'enfuir comme des vrais ninjas dans la nuit. Donc, Al semble satisfait. Il va, entre autres, pour montrer qu'il est satisfait, aller en fourrer une nouvelle.
Ah ben oui,
une nouvelle petite fille.
On va fêter ça.
Mais là, les motards sont pas contents. T'sais, fait qu'ils se sentent humiliés. Donc, ils vont se présenter à l'école de karaté pour fusiller tout le monde en extorquant l'adresse de Al pour lui régler son compte une fois pour toutes. Donc là, Al, toujours dans sa sublime voiture, vraiment, donc, n'a aucune idée que son ami karaté, man, s'est fait buter. T'sais. Donc, il se promène pour faire son fraîchier dans son char que ses parents lui ont probablement payé. Donc, va faire la rencontre de Babsy. C'est une magnifique jeune femme qui ramassera sur le pouce. OK, ça, c'est drôle comment ça se passe. Donc, une fois juste avant que celle-ci eût terminé de courir toute nue sur la plage avec son copain, qu'elle va sacrer là une fois que Al va lui dire « ben il y a juste deux places dans mon genre ». Fait que « ah, ben OK, bye ». Fait qu'elle laisse son chum sur le bord de la route avec un coffre, tu sais, les genres de coffres à grand-mère de grenier, là.
Ouais.
Il traîne ça au milieu de la rue, puis il dit « c'est quoi que je vais faire avec le coffre ?» Tu sais, c'est, t'es comme « ben voyons donc ».
Qu'est-ce que c'est ça?
Puis ça n'a pas de bon sens. Donc, donc là, il va la conduire à sa, ben, en tout cas, la somptueuse demeure de ses parents où ils vont se déshabiller et prendre un bain érotique dans une eau jaunâtre. Mais vraiment jaunâtre. T'sais, moi, je me suis dit, pour moi, Babsy, c'est là, c'est louche, une coupe de foin entre les prises. Parce que c'est jaune pas mal. Puis à cause de la véhicule, vu que c'est vieux, c'est jaune brun.
Oui.
Ils se font des mamots là-dedans. Il n'y a rien d'érotique, ben. Donc, là, nos petits motards, toujours sous, planifient leur attaque, tandis que Stiletto, le grand tata, va faire du karaté tout nu, vraiment comme un grand
cadre. Ah oui, c'est ça.
La photo, je t'ai envoyé, là.
Ouais, j'ai pris à peine à regarder cette scène-là.
Bon, OK, puis... je sais pas, son sous, lui, fesses dans le vide, il est tout nu, let's go.
C'est malade,
c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi,
ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, donc... enfin, ils vont finalement se décider d'aller attaquer la demeure familiale de Al, tandis qu'il sera absent de la maison avec Babsy, faisant de l'équitation avec sa nouvelle flamme de l'heure. Vraiment en slow motion, là, tu sais, du beau cheval, comme dans les prés avec la petite musique.
Ah ouais, l'annonce de Tampax sur Yoko, là.
C'est ça. Une annonce de Tampax, genre. À son retour, il fera l'horrible découverte du massacre et décidera de mettre fin à leur gang une fois pour toutes. Donc, comment s'y prendra-t-il? Survivra-t-il? Combien de pitounes va-t-il pogner en chemin avant d'exercer sa vengeance? OK? Donc, je m'arrête là. Tu sais, je vous ai quand même pas mal...
Elle a compté pas mal,
pas
moi,
mal, mais j'ai laissé beaucoup de détails parce que... Tu sais, comme j'ai dit, Mad Foxes, c'est un film d'exploitation.
Ouais, okay? C'est ça qui arrive.
On peut pas juste mettre ça dans une catégorie parce que, comme je disais, bon, backsploitation, nazi-exploitation, car-exploitation, sex-exploitation, ça peut finir. Donc, c'est une grosse fricassée et ça marche très bien.
Ouais.
Autant la musique. Tu sais, comme aucunement, on peut considérer ça un bon film, mais comme Simon le dit si bien... C'est un nanar fort sympathique.
Ah.
Tu sais, c'est un bon film quand même. Donc, le dubbing est incroyablement mauvais. OK, c'est pourri. Tous les acteurs se parlent un par-dessus l'autre. On se croirait vraiment dans un film de Woody Allen. Sans arrêt, l'acting hilarant. Surtout quand Al pleure la mort de sa mère. Ça, c'est pas être drôle, mais comme, c'est drôle. C'est chiant. Comme... il se force.
Mais c'est dû au dubbing, ça, surtout, tu vas me dire?
Ah, non, l'acting.
Tu en général, en face, mais... c'est pas choqué.
Écoute-moi, la version où j'ai, il y a de l'italien, allemand, anglais. Écoute en anglais, là, pour le fun. C'est... Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, j'avais oublié, là. Mais c'est vraiment pourri. pour le... Puis tu sais, t'oublies à un moment donné. T'sais, tu vois que ce qui se doit se dire vraiment dans leur langue, c'est sûrement pas ça. Puis je
C'est parce qu'à un moment donné, tu arrêtes de le remarquer. Oh, tu portes plus attention. C'est comme n'importe quoi. Là.
Ça, c'est coproduction, et ben, je ne l'ai pas dit, c'est suisse et, voyons, espagnol, ce film-là.
Ah, OK.
Donc, ensuite de ça, nombreuses scènes où les bikers sont en public. OK, la croix gammée.
En public, tu dis?
En public.
Ah, OK. Il y en a juste un en public
ouais,
à un moment donné.
C'est ça.
Le ninja.
Donc, à chaque fois qu'ils sont en public, leur brassard, finalement nazi, est rouge avec le sarglant, mais la croix gammée est jamais là. Genre. Là, groupe, ils rentrent dedans. Ouh, la croix gammée est apparue.
Non.
Fait que toutes les scènes extérieures,
je
suppose que, ou ce qui tournait, voulait pas avoir d'ennui ou, tu sais, pas, là, c'est pas un film à gros budget. Et tu vois le monde dans les rues pendant qu'il y a des scènes qui regardent, tu sais, comme
pour
qui.
Vrai.
Fait que tu regarderas chaque plan extérieur, ils ont pas leur croix gammée sur leur, leur brassard.
Tu me connais, j'étais un peu weird dans mes goûts. C'est avec ça que tu m'as convaincu de regarder le film.
Tu regarderas. C'est
ça, je veux voir ça.
Ça paraît, là.
Oh my god.
Donc, on peut. Les bikers qui essaient donc gros de se faire passer pour The Warriors, un petit peu avec leur costume.
Tous les films de bikers, ils s'essayent.
Là. On peut pas vraiment les prendre trop au sérieux. Je m'excuse, ça se promène dans des petits motocross, des petites motos vraiment cucu.
C'est pas bien impressionnant.
Il y a rien qui crie danger bikers là, quand tu les vois, vraiment pas. Juste une gang de sous-longs ben épais, armés. C'est vraiment ça. Ensuite de ça, mais chacun a un trait de personnalité différent. Donc, quand je dis trait de personnalité, c'est un...
Comme les Power Rangers.
C'est un costume.
C'est ça.
Différent qui laisse sous-entendre, ah, ben toi, t'es le grand cave, toi, t'es ici, toi, t'es...
C'est ça, t'as le bleu, le rouge, le jaune.
C'est en plein ça. Mais avec zéro personnalité. Donc, sérieusement, non. Donc, innombrables, OK?
C'est
clair. Scène de cheese sur un plateau d'argent, carrément. Scène de poursuite, meurtre, monde tout nu, pour rien, sans arrêt. Beaucoup de poils. Donc, c'est 1h15 où vous allez rire. C'est un petit trésor, ce film-là, pour les amateurs d'exploitation. Tu peux pas t'ennuyer écoutant ce film-là.
Okay.
C'est un film culte. Il passe beaucoup souvent. Ils ont sorti une version Blu-ray il y a pas longtemps, ça m'a surpris.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de monde dans le groupe des collectionneurs des films d'horreur du Québec qui aiment ce film-là. Puis c'est vrai, je comprends. C'est un bon petit film. J'affectionne. J'ai découvert peut-être une dizaine d'années. Puis c'est le fun. C'est un bon petit film d'exploitation.
Ça, il est divertissant, il n'y a pas de temps mort.
Oui, je sais que Simon, tu vas aimer ça, tu sais, mais aimer ça parce que c'est pas bon.
Parce que c'est différent. C'est esthétiquement différent.
C'est... mais à conseiller, c'est...
Okay. Cool.
Puis je veux rien dire de trop, mais des grandes... En tout cas, non, je veux rien dire.
Non, dirais.
Je dis rien, mais comme courez voir ce film-là, c'est le film que vous allez vous faire, tu vois.
Cool. On vous l'a partagé en version anglaise sur le blog, en très bonne qualité, en fait, transféré du DVD.
OK.
Fait que merci, Olivier. On vous invite à acheter un coup d'œil. Moi, en tout cas, je vais laisser de le découvrir cette semaine ou ce week-end, dès que je ne
sais pas. Amuse-toi, tu vas triper.
Sur ce, comme la musique du film, le soundtrack est difficile à trouver, même si on a le nom d'un des groupes, hein, parce que là, bon, ce qu'on ne comprenait pas au début, là, par cause que la musique, en fait, la seule version que j'ai pu trouver de cette musique-là, c'est dans l'intro du film, où ce qu'il y a le moteur du gros Stingray qui brûle. Comment on entend la musique, là? Mais le groupe s'appelle Crocus.
Oui, avec un K.
Avec deux K. Crocus.
J'ai essayé, moi aussi.
La chanson, c'était Easy Rocker. Mais outre ça, c'est très difficile de tirer une autre chanson du film. Et le soundtrack, à ma connaissance, n'est pas sorti. Donc, je me suis lancé. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du rock, des nazis. Je vais écrire Nazi Rock. Et voici ce qui m'est sorti. On va écouter du Serge Gainsbourg.
Ooh.
Avec sa chanson Nazi Rock, tirée de l'album Rock Around the Bunker. On revient tout de suite après avec la VHS insolite.
Enfilez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente. On va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock.
On va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
Boucle blonde, les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles, ni phare, venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
On va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi.
On va danser le
Nazi Rock, Nazi.
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock,
Nazi. C'est que ça. C'est tellement bon, man. On va laisser, on va laisser. Ah oui, swing it, Linda! Eh oui. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la VHS insolite de la semaine. Et... Calic, c'est n'importe quoi ce qu'il y a celle-là. What the fuck? J'avoue que je me suis lancé un peu à l'aveuglette dans celle-là. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui me tente? J'ai goût. Qu'est-ce que... Parce que des VHS insolites, là, je veux juste vous avertir, là, j'en ai à peu près 400 en liste, OK? On a le temps, là. Vous dire, on est, je suis pas prêt d'en manquer des cassettes bizarres, là. Fait que là, j'ai juste pigé. Je savais pas trop dans quoi m'en aller. J'ai pigé au hasard. J'ai dit, oh, je vais me taper celui-là. On va le découvrir, puis on va voir si ça vaut la peine. Je sais pas. On dirait que je suis pas capable de dire si ça vaut la peine ou non.
Ah, vas-y.
Mais en tout cas... What the fuck is that? Donc... Excusez-moi, hein? C'est mes deux faux de fumeur. Donc, je vous le présente comme ça. How to get revenge. Une vidéo pour des trous de cul, par des trous de cul. C'est une VHS qui est sortie en 1989, direct to video. C'est une réalisation de Bob Logan, qui a écrit beaucoup de télé. Hein? Il a écrit beaucoup d'épisodes de Ghostbusters, le dessin animé. Mm-hmm. Denis la menace, le dessin animé. Les Popples, la maison de Whimsy.
Ouais, ça, non.
Non, ça. Ben, tu t'en rappelles?
Oh, oui, mais
comme
l'espèce
de poupée mongole, là.
Mais
qui fait...
Dennis de Menace, tout ça.
Oh, oui, ça, on l'a écouté. Ben, oui. Pas Whimsy. Whimsy, c'était moins notre temps. Non. C'était pas notre génération, trop, trop. Puis, on vous traite pas de petits jeunes, là, si vous l'avez écouté. C'est juste que nous,
nous
on est rendu des mononcles.
C'est ça.
Il a aussi réalisé Up Your Alley, une comédie romantique de 89, la même année, donc How to Get Revenge. S'en est suivi Repossessed. Alias L'Exorciste en folie en 1990.
Okay, oui.
On a aussi Meatballs, le cat.
Ouais.
On s'est entendu que, bon. En 92. Et s'ensuit une chute libre télé dont je ne mentionnerai même aucun titre. La cassette avait besoin d'une animatrice, hein, belle, jeune, sexy, dynamique. Pourquoi pas Linda Blair, hein? Mm-hmm. Son plus grand rôle! Non, hey boy, non, loin de là. Donc, pour ceux qui ne replacent pas, hein, c'est la fille qui jouait The Exorcist. Elle a aussi joué donc dans deux autres films de Bob Logan, par Up Your Alley, qui est sorti avant How to Get Revenge, et Repossessed, qui est sorti après. Donc, on va y revenir. Je veux bien y revenir, mais j'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans ce film-là. Fait que d'après moi, c'est vraiment qu'elle avait un espèce de deal, un contrat avec Bob Logan, ou peut-être qu'elle couchait avec, ou il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose avec Bob Logan, parce qu'elle a joué dans How to Get Revenge entre deux films de Bob Logan. En tout cas, c'est pas clair. Mais bon, Linda Blair, on l'a aussi vu dans... J'en nomme quelques-uns comme ça, mais elle a quand même une grosse filmographie. Elle a joué dans Roller Boogie en 79.
Oui.
Hell Night en 81.
Oui.
Chained Heat en 83.
Mm-hmm.
Ah, j'aime ça à chaque fois.
Ah oui, avec Sino Danning. Mm-hmm. Ben oui, Chained Heat.
Savage Street.
Oui.
84. Witchery.
Oui, ouais.
88. Et oui. Oh combien d'autres, hein, ai-je vraiment besoin de la présenter? Donc, on se demande vraiment ce qu'elle fout là-dedans. Et à lui voir le malaise dans son jeu approximatif et fake, elle aussi, je crois, se demande ce qu'elle fait là. C'est donc présenté comme une VHS éducative. Hein. On va nous donner des trucs pour se venger sur des méchantes personnes qui nous ont joué dans le dos ou nous ont fait des coups bas. En gros, c'est ça. Hein. Déjà dans l'introduction de Blair, elle va citer un bout de la Bible. What the fuck? Ça part comme ça. Ça commence demain. Laissez-moi vous citer un livre qui est plein de belles histoires. Je sais pas trop ce qu'elle dit. J'ai fermé la page. Je l'avais d'ouvert pour la toune. J'aurais dû le laisser. Je l'aurais fait écouter. Donc, tu sais, comment tu peux citer la Bible là-dedans? C'est un peu comme si mettre du sucre dans une tank à gaz était l'œuvre de Dieu. Non. Non. Elle va donc nous prévenir qu'aucune vengeance ne blessera ou devrait blesser qui que ce soit. D'accord. Et que la vidéo nous est présentée pour des motifs de divertissement uniquement. Et oui, c'est très divertissant, je présume, si on est un trou de cul. Donc, on commence tranquillement... Linda Blair, techniquement, elle sort pas du bureau, fait qu'elle a, en réalité, aucun contact avec aucun des personnages du montage. Elle est dans un décor de bibliothèque, là, puis elle a tout enregistré ses takes la même journée, probablement. Là. Puis là, à l'écran, c'est une fausse télé. Là, il va nous montrer plein de monde, finalement, qui vont nous enseigner comment se venger. On débute avec... On a beaucoup de faux détectives, puis de faux ex-policiers, puis tout ça, pour nous montrer comme si ces vengeances-là venaient toutes d'anciennes enquêtes ou contrats, mais ta gueule, là, ça se peut. Non, ça arrive pas dans la vraie vie, ça. C'est genre, non. t'sais, même si ça serait forcé pendant 10 ans pour trouver des clients qui ont demandé vengeance à un détective privé, hey, bonne chance, t'aurais même pas réussi à en trouver deux, je suis convaincu. Là, il y en a comme une vingtaine. C'est comme, ouais, on te croit, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est tout des... En tout cas, on y va. Donc, on commence avec le détective privé Quinn Vickers, qui nous raconte qu'un de ses clients s'est fait prendre à un moment donné dans une magouille pyramidale par un de ses amis. Ils ont donc trafiqué un faux certificat de décès, l'ont envoyé à l'Agence du revenu et au Bureau d'aide sociale pour ruiner le futur économique de ce jeune homme. Et il ne pourra plus se trouver de job ni avoir de chômage. Mais en plus, ils vont faire croire à sa femme qu'il y avait une maîtresse. Ha ha! Your life is ruined! Vengeance! Suivi de Linda Blair qui sort un punchline. Hit him in the pocketbook, hein?
Oh non! J'ai honte pour elle, Colin!
On enchaîne. Ensuite, on a un autre détective, le détective GM. Ta gueule. Qui nous parle de vengeance par la poste, comme par exemple inscrire notre victime à des magazines gays et bisexuels, ou mettre des petites annonces dans les magazines gays pour trouver des partenaires sexuels ou pour trouver des criminels dans la fraude avec le numéro de téléphone de la personne. Ça, j'avoue que je suis très tenté de l'essayer. J'avoue que ça, c'est très drôle. Mais d'après moi, ces supposés détectives-là, lui, détective GM, à chaque fois qu'on le voit, là, il nous propose des coups de vengeance très homophobes à chaque fois. D'après moi, il a des problèmes avec sa sexualité. Il veut tout le temps se venger avec des coups gays. C'est louche. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Il va aussi suggérer d'envoyer des boîtes de chocolat par la poste. Mais on remplace les chocolats par des chocolats laxatifs. S'ensuit un autre punchline de Blair. That ought to flush out the situation.
Aïe, aïe, come on.
Oh, pauvre Linda. On continue. On va aussi rendre visite à un client. Harold. Ah, oh, lui, tu l'aimais,
oui.
Hein? Harold, le pire cliché de geek, ah, les oui. Moustachu à lunettes que vous avez jamais vu. C'est ridicule. Et ça ne fait que commencer. Harold nous raconte une fois qu'il s'est fait écœurer et humilier dans un restaurant chinois tout en tenant ses baguettes de ses baguettes chinoises là, comme des baguettes de drum. Tu sais, come on, aide-toi, là. C'est pas te faire écœurer, là. Come on. Anyway. Pour se venger du mauvais acteur joué par un bad boy et vice-versa, un bad boy joué par un mauvais acteur, sans oublier sa connasse de bimbo qui piaule comme une corneille. T'es quoi? Pour se venger de nos deux sous-comédiens, le nerd va faire un coup monté pour se faire accuser le couple de vol à main armée. Voyons, j'ai de la misère à le dire. En gros, il va faire accuser le couple de badass faussement de vol à main armée. Bang! Piégé! Vengeance! C'est une réaction normale à quiconque se fait jeter des nouilles dessus. Hein? Aujourd'hui, Harold a plus confiance en lui et il pense sérieusement retourner dans un restaurant chinois bientôt. Ensuite, l'officier PF va nous montrer comment changer sa voix pour faire des coups au téléphone en mettant un chapeau sous le combiné. Je sais pas. Il va nous raconter l'histoire d'une cliente secrétaire parce qu'une deuxième secrétaire a été rude et bitch avec elle. Elle s'est arrangée pour qu'elle perde sa job. Waouh, hein? Bravo, fille! Vengeance! On a aussi une Mélina, début trentaine, qui nous raconte qu'elle sortait avec un jocks de l'équipe de football et qu'à un moment donné, elle a appris que le jocks la trompait avec un autre greluche. Elle a donc lancé la rumeur que la greluche en question avait la syphilis, humiliée, rejetée par tout le monde. Elle a dû changer d'école. Et maintenant, Mélina a lancé la rumeur dans cette nouvelle école aussi. Viruinée, vengeance!
Hey, ça peut donner des idées à des hosties de fous, ça, pareil.
Ça, je te dis.
Voyons.
S'ensuit une réplique et rire machiavélique fake de Blair. Stories like that, this certainly makes my day.
Ah, c'est sadique.
Oh my God.
J'aime plus, Linda.
Mais je vous jure, elle dit ça de façon tellement fake, de toute façon. Hey, on va avoir droit à des coups. Hey, là, j'énumère. Là, hein. On lance en rafale. On va avoir droit à des coups à faire dans les boîtes à mal, sur des voitures. Comment faire chier une minorité visible en la dénonçant au service d'immigration? D'autres vengeances homophobes. Des lettres de personnes qui racontent comment eux se sont vengés. Mettre de la colle dans des serrures. Écrire des obscénités dans le gazon avec des produits chimiques. Changer les étiquettes des boîtes de conserve. Parce que ça, c'est vraiment chier! Et finalement, à la toute fin, on revoit nos acteurs, je veux dire, des vraies personnes qui nous offrent leur témoignage sur leur vengeance préférée, telle que la femme nouvellement divorcée qui vend la Porsche de son ex pour 10$. Au final, il y a deux volets à ce cours de trou de cul. Il y a les petits coups niaiseux comme le sac en feu sur le perron avec du caca de chien. Ouais. On l'a vraiment, là. Mm-hmm. Et il y a les gros coups chiens qui détruisent des vies pour les rendre plus misérables possible. Et comme Linda Blair l'a dit, c'est normal de se venger. C'est écrit dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent. Toutefois, vous l'avez compris, on se doit de reprocher à cette VHS deux choses principales. Tous les coups sont organisés pour pas que l'attaquant se fasse prendre, ce qui démontre clairement que c'est des coups de rat pour les pissous qui ont pas les couilles d'affronter leur ennemi homme à homme.
Mm-hmm.
Aussi, c'est pas nécessairement... Comment formuler ma phrase? C'est pas nécessaire de détruire des vies, de faire perdre des emplois, de ruiner des réputations, de séparer des couples, de pousser des victimes au suicide. God damn, girl. Mais comme Linda Blair dit, la face trempée dans le malaise pur, ce n'est que divertissement. C'est écrit dans la Bible, hein? Envoyez de la porno gay à ceux que vous aimez pas. Sur ce...
Je vais aller demander sur Facebook, hein, parce qu'il est sur Facebook, Linda Blair.
Oui, ben oui. C'est vrai, t'as tout le monde sur Facebook.
Pourquoi? Pourquoi Linda?
Ben oui, si on a un suivi là-dessus, prochain épisode, on en reparlera. Sur ça, ben je vous invite à le découvrir. C'est drôle. C'est 45 minutes de divertissement ridicule qui vont quand même... Là, vous faites pas les coups pour ruiner des vies, là, mais s'il vous plaît. Mais ça va quand même vous donner des idées pour faire des petits coups chiens à vos amis. Il y en a quand même des drôles. C'est une belle découverte, mais quel film insolite qui n'a aucune utilité à la surface de la planète. Je sais pas sur les autres planètes, mais dans notre galaxie, là, c'est, on n'a pas besoin de ça. Linda Blair, please, we need answers. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci, Olivier, pour Mad Foxes. Sais-tu sur quoi tu t'enlignes la semaine prochaine?
J'ai une petite idée, oui.
Est-ce qu'on va parler de fantômes?
Oh, je sais pas.
Ah, on verra la semaine prochaine. Sur ce, merci Oli. J'ai hâte d'aller me bourrer le ventre puis faire une sieste avec toi encore la semaine prochaine. On va se laisser cette semaine avec une chanson tirée du film de 1971, film italien Kill. Mm-hmm. Une chanson composée par Berto Paisano et Jacques Chaumont, featuring la voix délicieuse d'Edda Delorzo. Une chanson vraiment fabuleuse. Mm-hmm. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine aux Oubliettes sur choc.ca.